Tam Israël, des infos, de la culture, un invité, une émission proposée par Thierry Rose, Dan Leclerc et Alain Lévy. Prenez une chaise et écoutez-moi. Chers amis de Tam Israël, bonjour, bonjour Dan Leclerc, bonjour Alain Lévy.
Bonjour.
Bonjour Thierry, bonjour Alain. Bonjour à tous.
Cette émission qu'on qualifiera de émission zéro, elle ne sera pas nulle, mais c'est l'émission numéro zéro.
Il m'a aidé d'être clair, tout de suite, ça donne le ton.
Il y a un nouveau magazine consacré à Israël. Alors, le titre de l'émission, Dan Leclerc, Tam Israël.
Ah bah ça, je crois que ça évoque immédiatement les fameux Shtamtish alsaciens, ces moments de réunion, de rencontre, de convivialité autour d'une table, en bonne compagnie pour pouvoir parler d'actualité, du quotidien, des bons plans, des trucs et astuces, et surtout de l'info sur Israël, bien évidemment.
Oui, c'est exactement l'ambiance d'ailleurs qui règne en Israël, que j'appelle souvent le Shtamtish Nation, plutôt que... Le Startup Nation.
Ah, le Shtamtish Nation, moi ça me parle bien. Ça tombe bien parce que nous avons un spécialiste avec nous de ce Shtamtish Nation, un de des cofondateurs de l'émission, Alain Lévy.
Ah, c'est gentil, merci. Oui, ça me ramène en arrière, mais ce sont des bons souvenirs.
Eh bien, on va surtout, au-delà d'évoquer des souvenirs, parler du présent et du futur avec les trucs et astuces. C'est la rubrique d'Alain Lévy. Alors,
on va commencer par, effectivement, Alain Lévy, auteur du guide de l'Alia aux éditions du Puy Fleury, c'est ça?
C'est ça, oui.
Donc, si vous n'avez pas encore ce livre et que vous avez un projet d'Alia, il est indispensable, c'est le B.A.B.A. pour partir en Israël.
Et même si vous n'avez pas de projet d'Alia, vous pouvez quand même le consulter parce que ça permet comme ça de comprendre le parcours des différentes étapes à venir. Alors Alain, quelques mots sur votre livre, sur ce guide de l'Alia. Vous aviez adossé ce livre à l'époque à une page Facebook et vous nous disiez en off que c'était des milliers de messages, aussi divers que variés, qui venaient abonder votre page. Que faire de mon cheval? Quel médicament prendre? Est-ce que je peux planter un arbre, le déplacer? Ma voiture? Enfin, bref, tous les soucis ou les besoins du quotidien.
Ah oui, tout à fait. Ça, je dois préciser quand même que ce livre a été écrit en 2014. C'était une période très, très faste pour les gens qui voulaient partir en Israël. Donc, effectivement, j'ai animé sur Facebook une page guide de l'Alia et j'ai été sidéré de voir les demandes et les questions posées à ce sujet-là. Et je dois aussi rappeler, pour se placer dans le présent, qu'à l'époque, c'était quasiment 7-8 000 personnes qui faisaient leur Alia tous les ans. Cette année, aujourd'hui, les chiffres sont terrifiants parce que sur 7 mois, ce sont 700 personnes qui se présentent pour faire leur Alia, alors que l'année dernière, c'était déjà plus de 4 000 personnes qui ont fait leur Alia. Ça veut dire que chaque jour, il y a 3 Juifs français qui partent en Israël, alors que l'année dernière, à la même période, c'était déjà 10 Juifs français qui partent. Donc, beaucoup de complications pour faire son Alia, mais on a des recettes, on va vous les donner, et je suis là pour répondre à vos questions.
Alain, on parle beaucoup de retour d'Alia depuis un petit moment et particulièrement depuis cette crise sociétale. Et
dans cette émission, on appelle ça un shtambak.
Shtambak. Ouais. D'abord, des chiffres, combien et ensuite pourquoi?
Ben, je vous ai donné ceux en fait de l'Alia. Aujourd'hui, 700 personnes, alors que l'année dernière, c'était quasiment 4000. Et en 2014, c'était pratiquement 7-8000. Donc, vous voyez que l'Alia, quelque part, s'écroule avec les Juifs de France. Alors, personne ne donne des chiffres précis sur les Français qui reviennent en France. Les raisons, on les connaît. La vie chère, la vie politique est infernale. Enfin, beaucoup, beaucoup de questions. Mais moi, je préférerais plutôt me projeter sur ceux qui vont plutôt que ceux qui reviennent. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'emprise sur ceux qui reviennent, alors que sur ceux qui vont, on a quand même beaucoup d'informations à leur donner pour leur faciliter la vie. J'ai moi-même fait mon Alia, donc je connais le parcours du combattant pour y réussir. Ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'on va vous donner des recettes pour pouvoir y arriver sans perdre patience. Salvanout, Salvanout, tu nous gagnes. Oui, effectivement, en Israël, il faut faire preuve de beaucoup de patience, mais même avant de partir, il faut avoir beaucoup, beaucoup de patience et de volonté pour y arriver.
Alain Lévy, quelle est la première, toute première démarche à faire lorsqu'on veut faire son Alia?
Alors déjà...
Alors l'alia pour nos, les auditeurs...
Pour les co-religionnaires, parce que ceux qui veulent ça sont, ont peut-être quelque chose de... de comment dire qui ne tourne peut-être pas tout à fait rond.
Non, pour ceux qui ne connaissent pas le terme alia, qu'est-ce que ça veut dire déjà
alia? Alors alia, ça veut dire montée. La montée vers Israël, donc c'est le terme alia. Alors c'est vrai que pratiquement je crois qu'il y a 8000 personnes qui ont monté un dossier mais qui ne sont pas allées au bout du parcours parce que effectivement il y a des tas de raisons qui font que je sais pas un shekel qui est très fort, une vie politique qui est intensément voilà, c'est vraiment c'est difficile. Donc, l'alia, c'est la montée. La montée, c'est le parcours. C'est le parcours. La première chose à ta question, Thierry, c'est d'engager un processus. Quel processus d'alia? Et là, je peux vous donner étape par étape ce qu'il convient de faire pour pouvoir y arriver.
Comment joindre Alain Lévy si on a des questions?
Bonne question. D'abord, vous pouvez bien sûr envoyer des messages sur judaica@live.fr. Vous envoyez votre question et là, je vous y répondrai très précisément sur les différents sujets, que ce soit des sujets administratifs, des sujets sur l'immobilier, des sujets sur la fiscalité, des sujets sur l'ouverture d'un compte bancaire, des sujets sur l'inscription à une école, comment faire de salle ou ne pas faire de salle. Enfin, tout ce qui peut se rapporter à votre vie au quotidien, une fois en Israël, le Bitoir Léomi, enfin, le permis de conduire, et les sujets sont multiples et variés.
En fait, c'est tous les sujets du quotidien
de
qui
vie.
Finalement se transforment en potentielle
en
galère ou en parcours du combattant, pour
voilà.
Ne pas le nommer.
C'est pour ça, tout à l'heure, sur le ton de l'humour, tu indiquais quelques expériences que j'ai eues avec des gens sollicitant leur demande sur, effectivement, cette dame qui me questionnait, mon papa a planté un arbre dans mon jardin en France, comment puis-je faire pour des raisons phytosanitaires pour l'emmener en Israël? Donc ce sont des questions auxquelles je n'étais pas préparé, j'ai dû chercher pour les trouver. Donc c'est toutes ces choses-là que vous pouvez que je pourrais vous répondre après une formulation écrite, car ça demande parfois des recherches pour être précis.
Surtout en phytosanitaire, on n'est pas forcément un expert.
Donc vous écrivez à Shtam Israël, S-T-A-M, Shtam Israël.
Dans l'objet du mail.
Voilà. Sur l'adresse
judaica@live.fr.
Et là, je vous répondrai après des recherches, s'il fallait faire des recherches, donc voilà. Aucun problème.
Moi, j'ai une première question aussi quand même pour toi, Alain. Qu'est-ce que ça coûte de faire son Aïla?
Moi, je dirais, qu'est-ce que ça rapporte?
Ou qu'est-ce que ça rapporte?
Ça rapporte de pouvoir satisfaire une ambition, pardon, celle de pouvoir aller vivre en Israël. C'est un projet de vie important, c'est un changement dans sa vie de tous les jours, pour soi et pour ses enfants et pour son environnement. Donc c'est un engagement, c'est pas un recul par rapport à la France, c'est simplement un engagement d'aller faire
différent.
Une expérience.
Est-ce qu'on a des statistiques ou des cotes-parts un peu? Il y a des gens qui partent en famille, des gens qui partent plus jeunes, d'autres qui partent plus vieux, d'autres qui partent avec les enfants, sans les enfants, en fonction de l'âge. C'est des projets très divers et très variés.
Alors, effectivement, les retraités sont majoritaires dans les départs parce que la Parnassa se pose moins avec un retraité qu'avec un jeune couple et des enfants. Le problème de la langue aussi. Il y a des facilités aussi pour un retraité d'aller faire son alia par rapport notamment à des raisons fiscales. C'est quelque chose d'important. Se projeter avec sa famille quand on a des jeunes enfants, c'est vrai, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut parler la langue, il faut pouvoir s'intégrer dans une école. Ce sont donc les profils, cette question est très bonne, mais majoritairement, ce sont des retraités. Aujourd'hui, alors que Netanya était la ville la plus demandée, c'est Haïfa. Qui est demandé.
En tête de liste.
En tête de liste aujourd'hui, des projets qui
C'est pour le climat, le prix de l'immobilier.
L'immobilier, ça joue beaucoup parce qu'effectivement, le prix de l'immobilier est relativement, je dis bien relativement peu cher à Haïfa, mais il faut dire aussi que les structures de déplacement en Israël ont beaucoup évolué. Et le train.
Le train qui relie Jérusalem à Tel Aviv,
ouais.
Qui vient de débuter il y a quelques semaines.
Et qui va Haïfa vers Haïfa, en passant par des villes comme Hadera, etc. Ce sont des villes aussi qui prennent de l'expansion. Hadera, c'est une ville incroyablement qui a un développement très important. Et donc d'autres villes qui sont moins sollicitées. Le problème, c'est le problème de l'immobilier. Effectivement, se loger à Tel Aviv, se loger à Jérusalem, ce n'est pas chose aisée. Et donc c'est pour ça que les destinations aujourd'hui ne sont pas limitées, mais on les regarde avant de s'engager dans ce processus. Mais là aussi, l'ALIA, ceux qui tournent autour de l'ALIA peuvent aider tous ceux qui veulent aller vivre en Israël de faire le bon choix par rapport aux écoles, au système aussi médical, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problématiques médicales et qui doivent trouver un hôpital qui peut répondre à leurs besoins en termes de soins au quotidien. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qu'il faut pouvoir construire avant son départ, et pas simplement se dire, tiens, je prends, et là-bas, je verrai, alors, il fait beau, c'est le pays du miel.
Du miel et de l'abondance. Alain, il y a d'abord deux questions. La première, c'est effectivement des retraités vont faire leur alia, et il y a le problème des pensions qui sont versées en euros en France.
Elles peuvent être versées directement en Israël, d'ailleurs.
Elles peuvent être versées directement en Israël, mais en euros.
Ah oui, en euros.
Que se passe-t-il au moment où l'euro est dévalué
Ah bah oui, ce fut le grand problème il y a un an, parce que l'euro était à 3,30. Je me souviens, en septembre 2022, l'euro était à 3,30. Aujourd'hui, l'euro est à 4,10, alors que, par exemple, quand j'ai écrit mon livre, l'euro était à 5. Donc, ça conditionne quand même beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui.
Et l'inflation qui accompagne tout ça.
Voilà. Et quand on va faire aujourd'hui ses courses dans un marché en Israël, c'est terriblement cher, terriblement cher. Alors, ça n'empêche pas, il faut le dire, si maintenant on se place du point de vue économique, de voir des groupes comme Carrefour aller s'implanter en Israël et essayer de pouvoir pénétrer ce marché-là. Donc, il y a des paradoxes et des problématiques. Donc, il faut arriver à combiner tout ça. Et
en tout cas, là-bas, c'est une motivation importante, un véritable projet de vie à construire et une planification et de la patience.
Alors maintenant, excusez-moi, question pratique. Je veux faire mon alia. Qu'est-ce que je fais?
Alors, la première chose...
C'est...
oui, voilà, moi j'ai 4 points.
Hein. C'est un livre de 200 pages. Hein, quand même.
Non, mais justement, on n'y arrivera pas en une émission. C'est pour ça que les thématiques vont se dérouler tout au long de nos rencontres, Dan et Thierry. Et c'est là où je veux être précis ensuite dans les questions que vous allez poser. Aujourd'hui, je vous déroule juste un process, oui. Celui de pouvoir s'engager. Donc la première chose, il y a une institution incontournable qui s'appelle l'Agence juive. Donc il faut prendre contact avec l'agent juive et participer obligatoirement à une réunion d'information.
Alors, qui contacter à Strasbourg?
Alors, ça, je ne peux pas vous le dire parce qu'effectivement, c'est très opaque à l'agent juive. C'est très difficile de les joindre. Moi-même, j'ai passé des journées, des nuits à essayer de les contacter et ce n'est pas facile du tout. Donc, il faut aller sur le site de l'agent juive et voir comment les choses sont organisées. Elles sont précises, elles sont bien faites, mais il faut arriver à pénétrer cet antre qui est l'agent juive. Donc, vous participez à cette réunion d'information, elle se fait en ligne et elle est obligatoire. C'est-à-dire, si vous ne la suivez pas, vous ne pourrez jamais entamer votre processus de l'ALIA. Ouais. Alors, vous avez un site internet qui s'appelle... agencejuive.org et là les réunions se font par thème, c'est-à-dire pour des familles, pour des jeunes, pour des retraités et des infos générales, et selon votre cas, vous y participerez en live avec eux.
Sur alors, Monsieur Lévy,
Monsieur Leclerc.
En fait, tout ça est absolument passionnant. Et je me dis, c'est vrai, tu l'as dit, il va y avoir un certain temps pour pouvoir expliquer tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser un petit quelques points de suspension pour nous donner envie de continuer, ce qui est déjà le cas, et de nous retrouver lors de la prochaine émission afin de poursuivre ces échanges pour que nous puissions bien dérouler l'émission et avoir d'autres informations à venir.
Très bien.
Notre invité du jour, Arié, le docteur Arié Ben-Semoun. Bonjour Arié.
Bonjour Thierry.
Arié Ben-Semoun, en dehors du fait que nous nous connaissons depuis près de 40 ans, Arié Ben-Semoun est aujourd'hui le directeur de Elnet France, qui va nous présenter sa société. Et un événement particulier la semaine prochaine, Arié Bensemoun, vous organisez une table ronde à Strasbourg de manière internationale avec des invités de haut vol. Est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter et ensuite nous parler de votre projet du Forum de Strasbourg?
Eh bien, écoutez, j'insiste toujours avec plaisir que je retrouve mes amis strasbourgeois. D'abord parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, une communauté que je connais bien, que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises, notamment lorsque j'étais président de l'Union des étudiants juifs de France. Je garde de très bons souvenirs de mes amis strasbourgeois. Et vous avez signalé l'ancienneté de notre relation, mon cher Thierry, qui remonte déjà à cette période. C'est dire à quel point les choses sont anciennes. Alors, depuis donc quelques années maintenant, je dirige une organisation internationale qui s'appelle ELNET, European Leadership Network. Je le bureau parisien et je participe avec mes collègues européens à la direction de l'organisation globale, européenne et mondiale. Notre travail consiste à développer, renforcer, favoriser les relations entre les pays européens et Israël à l'échelle stratégique, diplomatique et politique et économique également. L'économie faisant partie aujourd'hui, évidemment, de toute la dimension stratégique de l'action qui est menée par les États, mais ça va même beaucoup plus loin. On parle d'innovation, on parle d'énergie, on parle de beaucoup de sujets qui ont pris la dimension stratégique autrefois. Lorsqu'on parlait des questions stratégiques, on évoquait principalement les questions militaires, les questions de sécurité, et aujourd'hui, cela va beaucoup plus loin, même si la sécurité, c'est aussi la question énergétique, c'est aussi les questions de l'alimentation, bref, tout ce qui fait que, notamment au travers de l'innovation, au travers des nouvelles technologies, Israël s'est hissé au tout premier rang mondial des pays qui ont cette capacité de changer le monde, de le transformer, de l'améliorer. Et donc, nous avons bien sûr rajouté à notre arc de compétences cette dimension économique dans les préoccupations stratégiques et toute question de coopération. Dans un monde où la géopolitique et où la géostratégie ne cessent de bouger, de se mouvoir finalement, on voit bien que la question de la relation est devenue absolument centrale. Et il est apparu depuis très longtemps maintenant, notamment à nos amis américains qui avaient un peu d'avance sur nous dans ce terrain-là, qu'il ne s'agissait pas simplement de proposer une offre en matière de relations israélo-américaines, mais qu'il fallait que cette offre-là s'ouvre à l'Europe et que l'Europe ne pouvait pas rester absente et Israël ne pouvait pas non plus se passer de l'Europe s'agissant de ces questions-là. Voilà.
Donc si je comprends bien, c'est une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que...
Absolument, il est dans notre état d'esprit, ce n'est pas simplement de dire on doit renforcer les relations avec Israël parce que c'est bon pour Israël, parce que Israël doit sortir d'une forme d'isolement dans lequel il aurait pu être à un moment donné. Donc c'est vrai, mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, la relation entre l'Europe et Israël est autant bénéfique pour l'Europe, et nous allons en parler dans quelques instants, qu'elle ne peut l'être pour Israël. C'est-à-dire qu'il y a là véritablement, au nom des valeurs que nous partageons d'abord entre Européens et Israéliens, entre démocratie, que ce soit en matière d'intérêt stratégique commun bien compris, on en a dit quelques mots il y a quelques instants, mais également que ce soit en termes de combattre des ennemis communs, là il y a les trois éléments, les trois piliers sur lesquels les coopérations internationales fonctionnent et sont vertueuses, eh bien il s'agit effectivement d'un rapprochement, d'une coopération gagnant-gagnant entre voilà. Israël et les pays de l'Union européenne et les institutions également de l'Union européenne. C'est ce qui nous amène à Strasbourg, parce que la Strasbourg, grande ville européenne, parce que aussi elle est le siège du Parlement européen et que notre travail se situe également au niveau des parlementaires nationaux partout en Europe, mais également Parlement européen, bien sûr, à Strasbourg, à Bruxelles. Et donc là, c'est très important de bien comprendre qu'Israël, bien que ce soit un tout petit pays, joue un rôle déterminant aujourd'hui, dans tout ce qui est question stratégique, question de l'innovation, question de la coopération, prenez le sujet qui occupe tous les esprits aujourd'hui, les changements climatiques, le changement climatique,
les besoins d'eau.
Le changement climatique, le besoin d'eau, la transition énergétique, la protection de l'environnement, la capacité que nous devons avoir à assurer que personne ne manquera de nourriture, ou en tout cas que la nourriture sera suffisamment abondante, et là où nous en avons besoin pour éviter les famines qu'on nous dit présentes déjà, mais c'est un sujet que nous connaissons bien depuis malheureusement de nombreuses décennies. Donc voilà, toutes ces questions-là fait que Israël, c'est un pays qui compte, c'est un pays aussi qui est traversé par des crises et qui est entouré de beaucoup d'ennemis et qui, par conséquent, a besoin aussi de ces coopérations parce que plus rien ne se fait à l'échelle d'un pays seulement ou dans une relation qui serait une relation simplement israélo-américaine. Aujourd'hui, l'Europe est centrale dans toutes les problématiques du monde. On voit aussi sur les questions de sécurité ou sur les questions de défense avec la guerre en Ukraine qui arrive à son 600e jour. Et Israël, voilà, oui, ce petit pays, eh bien, fait partie aujourd'hui, est entré depuis bien longtemps dans la cour des très grands. Et donc, oui, c'est important pour les Européens de développer aussi cette relation avec Israël. On a parlé d'énergie, on se souvient la signature par Ursula von der Leyen en Égypte d'un accord gazier tripartite entre Israël, les Égyptiens et l'Union Européenne. Vous voyez, sur un sujet aussi sensible que celui-là, bien, Israël joue aussi un rôle de plus en plus important.
Sans faire de politique, parce que ce n'est pas l'objet de notre émission, il semble que l'Union européenne change son regard sur Israël, qui est beaucoup, beaucoup moins orienté vers des débats politiques, notamment politiques internes avec des élections en perspective, mais aussi politique stratégique. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle chez nous le Tachlès, on est beaucoup plus dans le réel politique que dans des postures politiques.
La réel politique a toujours été au centre de tout, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Et la réel politique, c'était une prise en compte, par exemple, des pays de la Ligue arabe dans les années 70 et 80, pour les raisons que nous connaissons bien liées au choc pétrolier, liées aussi à une question des marchés. Israël représentait un tout petit marché face à des pays arabes qui avançaient relativement unis, représentant une population de plusieurs centaines de millions de personnes, 22 pays musulmans, 54 pays musulmans. Enfin, la réelle politique fait que ça compte. Donc, face à cela, Israël considéré comme un nain stratégique. Les choses, comme on vient de le dire, ont évidemment beaucoup changé, ce qui explique que les changements de réalité, l'évolution de la question géopolitique et géostratégique fait que Israël joue aujourd'hui un rôle important. D'abord parce que c'est une très grande puissance régionale, la plus grande puissance du Proche et du Moyen-Orient, incontestablement, que aujourd'hui Israël est un acteur qui joue dans la cour des producteurs d'énergie. Donc ça, c'est aussi une nouveauté à laquelle, rappelez-vous, toutes les blagues que l'on entendait sur Moïse qui s'est trompé de chemin, au lieu de prendre à droite, c'est pris à gauche, on a hérité du désert et les Arabes ont eu le pétrole. Aujourd'hui, Israël n'est plus un désert et puis de surcroît vient de trouver beaucoup de gaz sur ses le long de ses côtes et participe aujourd'hui dans un contexte de tension énergétique majeure à cette nouvelle dynamique de la transformation, oui, de l'énergie, au-delà du fait que les Israéliens ont des capacités technologiques qui permettent aussi de travailler sur les questions de l'énergie verte, etc. Donc oui, le regard de l'Union européenne, le regard des pays européens sur Israël a beaucoup, beaucoup changé ces 20 dernières années. Et
nécessité fait loi.
Ah mais toujours.
Nécessité fait loi, tant pour Israël que pour les pays qui l'entourent, qui aujourd'hui tendent la main à Israël pour rentrer par l'antichambre ou le cheval de Troie d'Israël vers le monde occidental et les États-Unis.
Ben évidemment, c'est une obligation qu'ils ont aujourd'hui, la rente pétrolière se terminant. Bon, il y a encore de belles années pour les pays qui produisent du pétrole et du gaz, incontestablement, mais chacun a bien compris que la diversification de la ressource, obligé à penser le monde différent. Et puis, les générations changent, vous savez. Les jeunes étudient aujourd'hui différemment de ce qu'ils faisaient il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Et Israël est un pays qui s'est profondément transformé, modernisé. Et donc, le travail que nous avons fait ces 15 dernières années, c'est d'abord de faire connaître la réalité d'Israël, de la valoriser auprès des décideurs politiques européens, de favoriser la connaissance sur le terrain par des missions et des délégations très importantes et très nombreuses qui ont transformé le regard que certains pouvaient porter sur un Israël qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne pouvaient voir qu'au travers du prisme du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, ce qui est évidemment source de beaucoup de malentendus.
Et réducteur.
C'est totalement réducteur, c'est même caricatural, c'est profondément injuste. D'ailleurs, de voir quelque chose ou quelqu'un sous un angle biaisé de surcroît, ça ne peut que susciter la méfiance, parfois même l'animosité, pour ne pas dire la haine. Et donc nous sommes là aussi face à ces phénomènes-là, ils continuent à exister, et on ne peut lutter contre cette détestation ou délégitimation d'Israël ou cette haine des Juifs qui monte, mais a-t-elle jamais cessé de monter ou n'a-t-elle jamais disparu? Évidemment que non. Oui. Eh bien, on peut le faire justement par une approche pédagogique, une approche volontariste, et toutes les merveilles que recèle ce petit pays d'Israël,
alors nous l'appelons ici,
elles seront inconnues tant qu'elles ne seront pas suffisamment promues.
Alors, on t'expliquera, nous appelons Israël dans notre émission « Stammtisch Nation ». L'émission s'appelle Shtam Israël et on t'expliquera, c'est un mot alsacien que nous aurons l'occasion de développer la semaine prochaine, donc avec la table ronde du 3e forum
magnifique.
De Strasbourg, avec Arié Ben-Semoun, Dr Arié Ben-Semoun, directeur d'Elnet, la semaine prochaine à Strasbourg. Merci beaucoup Arié pour ce petit message et nous ne manquerons pas de revenir vers toi pour le débriefing.
Absolument, au plaisir de se retrouver à Strasbourg très vite.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On conclut cette émission pour remercier les participants, vous dire que nous avons été très heureux d'embrayer ce mois de septembre avec ce premier brand. On est à votre disposition pour y répondre, pour vous apporter des éléments concrets. Je vous souhaite une excellente journée.
Et un Shana Tova.
Shana Tova, Ometuka.